Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to a Writer, bienvenue dans cet épisode de mars qui a pour sujet principal la cozy fantasy, donc la fantasy un petit peu douillette, un petit peu réconfortante, et j'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Laure des Feuilles. Vous allez voir, je pense que cet épisode, je sais qu'on approche du printemps, mais pour moi c'est un épisode qui serait parfait à écouter pendant un week-end pluvieux, donc si par chez vous il fait pas encore trop chaud, qu'il pleut peut-être même, je vous conseille voilà, de vous blottir sous la couette avec un petit thé, un petit café parfumé ou un chocolat chaud. Bon, je sais que beaucoup nous écoutent pendant les transports, alors un peu compliqué d'amener votre plaid, mais on sait jamais. Je vous le conseille en tout cas. Et vous allez pouvoir nous écouter, discuter voilà, de cette cozy fantasy. Et également nous poser des questions sur est-ce qu'on a besoin d'une vie plus pleine ou plus vide pour écrire? Est-ce que parfois on a une vie trop remplie pour écrire? Est-ce qu'on a le droit de dire non à une maison d'édition? Est-ce qu'une maison d'édition parfaite existe? Et on a parlé un petit peu aussi voilà, de nos caractères introverti, un petit peu anxieux, et qu'il faut qu'on se force un petit peu quand même à sortir de chez nous, parce que c'est très bien, l'écriture, mais il faut pas rester sur sa chaise. Donc bref, si vous voulez nous entendre parler de tout ça, ainsi que du poids des réseaux sociaux et de son métier de traductrice, je vous laisse tout de suite avec l'épisode de Laure des Feuilles, alias Anne-Maëlle, et on se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Bonjour Anne-Maëlle, comment vas-tu ?
Très bien, merci. Et toi ?
Ça va très bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très très contente que tu rejoignes la famille Toss a Coin to Your Writer.
Bah, merci beaucoup à toi de me recevoir.
Bon, je t'appelle Anne-Maëlle, mais je peux également t'appeler Laure des Feuilles. Et est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ?
Alors, eh bien déjà, enchantée si on ne se connaît pas encore. Donc moi je m'appelle Laure des Feuilles, j'ai 30 ans, je suis une autrice française de l'imaginaire. Et mon premier roman, La Deuxième Quête, est sorti au mois d'octobre, donc 2023, aux éditions Les Arts Nemo.
Ok, donc super récent. Super récent, on est en février quand même. ça commence.
Ça passe.
Ça passe rapidement, c'est vrai. Super, et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours avant l'écriture, peut-être en tant que lectrice, et qu'est-ce qui t'a amené à ta profession d'aujourd'hui d'autrice?
Alors moi, de façon très peu originale, je suis une grande lectrice depuis toujours. Depuis que je sais lire, je pense, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, j'ai toujours dévoré les livres plus quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant et ado, que maintenant que j'ai une vie d'adulte. Mais en tout cas, voilà, la lecture, ça a toujours tenu une place super importante dans ma vie, quoi. Je pense que l'envie d'écrire est venue de là, en fait. C'est vrai que quand tu découvres toutes ces histoires merveilleuses qui te font rêver, qui te font t'évader et tout, ça te donne envie d'écrire à ton tour. Et donc, j'ai commencé à écrire des petites choses quand je devais être, je pense, peut-être fin de primaire et au collège. J'écrivais un peu quand j'étais au collège. Donc moi, je suis passée un petit peu à côté de toute l'étape fanfiction et compagnie. Malheureusement, je pense que ça m'aurait bien amusé de le faire, mais j'ai raté un peu ce coche-là, quoi. Mais voilà, j'écrivais des petites nouvelles de mon côté, des histoires et tout ça. Et puis j'ai fait une grande pause pendant le lycée et pendant toutes mes études supérieures. Et c'est en commençant à travailler, en fait, que je me suis vraiment remise à l'écriture. Mais peut-être qu'on en parlera un peu plus par la suite, je ne sais pas.
Ok. Et cette pause, elle était, comment dire, voulue? C'est toi qui t'es dit, l'écriture m'intéresse plus, je préfère me concentrer plutôt sur la lecture, ou alors c'était un peu le hasard et peut-être les autres hobbies, les autres passions qui ont pris le pas?
Écoute, je pense que c'était un peu le hasard. C'était pas une volonté vraiment délibérée de ma part, en tout cas, de me dire, ok, c'est bon, j'arrête d'écrire. C'était plutôt que je pense que j'avais peut-être un peu envie de me concentrer sur le côté plus vie sociale et études aussi. Et c'est vrai que ça, bah, forcément, quand tu es une jeune personne, les études, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de place, quoi. Tu as énormément de boulot, en fait. Donc ça, plus les amis, plus tout ce qui va être l'adolescence, je pense que voilà, ma vie était peut-être bien remplie. Il n'y avait plus forcément de place pour l'écriture, quoi.
Ouais, c'est compliqué. Et encore aujourd'hui, j'imagine que c'est d'autant plus compliqué que l'écriture, c'est un hobby qui demande beaucoup de temps, qui peut être très lent. Donc, c'est difficile parfois de trouver un équilibre. Je comprends la difficulté. Je voulais également te demander par rapport, bah, comme tu as commencé jeune, à ce qui t'a inspiré un petit peu à faire ce passage entre la lecture et l'écriture. Est-ce que c'est un roman qui t'a marqué? Et même, voilà, comme tu parlais peut-être du fait de ta profession, qu'est-ce qui t'a redonné le pied à l'étrier?
Alors, pour répondre à ta première question, je ne pense pas que c'est vraiment un roman en particulier qui m'ait marqué. Bon, moi, quand j'étais ado, je pense qu'on a plus ou moins le même âge. Peut-être que tu es un tout petit peu plus jeune que moi, je ne sais pas, mais
Oui, je
voilà,
vais
c'était
avoir
vraiment.
28 ans, donc on est la même génération, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu 30 là, au mois de septembre. Et donc, voilà, quand j'étais ado, enfin, jeune ado et ado, c'est vraiment les grandes sagas, style. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a eu. Mon Narnia, ça c'est plus ancien, mais tous les
C'était
Harkins
beaucoup Harry
Fall.
Potter, Hunger Games.
Oui, c'est ça. Oui, exactement. Hunger Games, c'était plus tard. J'ai découvert
Oui,
plus
un
tard,
peu plus
moi.
tard.
Mais enfin, voilà, ce genre de choses, vraiment des sagas qui prenaient des tomes et des tomes et des tomes. Donc, ça, je pense que c'est pas étranger au fait que j'ai commencé par une trilogie, d'ailleurs, à mon avis. Mais voilà, donc c'était pas un roman en particulier, mais c'était vraiment une période très propice aux sagas imaginaires. Ah oui, il y a eu Twilight aussi, évidemment.
Oui.
Donc c'est sûr que c'était tout un environnement super foisonnant pour, au niveau de l'imaginaire, quoi. Donc c'est vrai que quand t'aimais lire à l'époque, aujourd'hui aussi évidemment, mais il y avait de quoi faire en tout cas si tu voulais découvrir plein d'univers différents, quoi. Donc je pense que c'est tout un petit mélange de tout ça qui m'a marqué. Et ta deuxième question, oui, ce qui m'a remis le pied à l'étrier, bah en fait, je pense que c'est vrai que quand tu arrives, je sais pas si toi tu l'as vécu aussi comme ça, mais quand tu termines un peu les études, tu commences à travailler, ta vie elle peut vite devenir très routinière, en fait, surtout quand tu as une personnalité assez routinière comme la mienne, mais c'est vrai qu'en fait, ça peut voilà, vite être très le boulot. T'as ta vie, tu vois un peu tes amis le soir, tout ça. Bon, c'est quand même. Moi, en fait, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Qu'il manquait un peu quelque chose de ma vie, tu vois. Peut-être que c'est un peu dramatique comme façon de le présenter. Ça l'était pas du tout, mais c'est vrai que maintenant, quand je regarde ma vie actuelle avec bah, l'écriture, bien sûr, mais aussi bah, le compte Instagram et tous les échanges qui vont avec, maintenant, j'ai l'impression que ma vie, il y a. Enfin, elle est entre guillemets complète, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de. J'ai à la fois le côté pro et le côté aussi activité créative et échange humain qui m'intéresse, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'au moment où j'ai commencé à écrire, enfin, où j'ai recommencé à écrire, le côté créatif et artistique manquait un peu, tu vois. C'était quand même très axé vie d'adulte banale, entre guillemets, même si aucune vie n'est banale, évidemment, mais. Je pense que j'avais quand même envie d'y amener d'autres choses, quoi.
Ouais, je comprends parfaitement. Et puis c'est vrai que bah on part des réseaux sociaux, donc il y a l'aspect communauté et motivant aussi, parce que tu partages quelque chose avec des gens qui ne font pas partie forcément de ton quotidien, si c'est pas des personnes proches géographiquement toujours. Donc c'est vrai que ça t'ouvre une autre fenêtre sur le monde, et ça peut débloquer sur plein de points créatifs, ça c'est sûr. Sur
Bah, exactement. En plus, pour le coup, il y a beaucoup de gens de notre génération qui ont bah, commencé à écrire quand ils et elles étaient ados, quoi, comme on disait, avec les blogs, les fanfictions et tout ça. ils avaient déjà eu l'occasion de nouer beaucoup d'échanges en ligne avec d'autres personnes qui étaient intéressées par l'écriture, la littérature et tout ça. Et moi, vraiment peu, en fait, parce que j'avais un peu ce truc de... Tu sais, où tes parents, ils te disent qu'il faut faire attention avec Internet.
Oui, oui, oui,
que genre, on va venir t'enlever.
Non, je
et du coup, c'est vrai, du coup, c'est vrai que donc j'ai des amis de la vie hors ligne et hors page, on va dire, qui sont vraiment fantastiques et formidables et qui achètent mes livres, donc je les aime beaucoup, c'est pas la question, mais c'est vrai que c'est super agréable d'avoir le côté communautaire où tu comprends vraiment ce que peuvent ressentir les uns les autres, quoi.
Non, oui, oui, tout à fait. Mais je me retrouve énormément dans ce que tu dis par rapport aux parents. J'en avais parlé un petit peu il y a deux épisodes avec Marie et Teresa, l'aspect Skyblog, justement. Moi, mes parents, c'était vraiment tu mets pas de photo de toi, tu mets pas ton vrai nom, tu choisis un pseudo. Donc, j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu maintenant avec les nouvelles générations qui. Je vais prendre l'exemple de TikTok. J'ai l'impression d'avoir 63 ans quand je dis ça, mais tu sais qu'ils sont beaucoup plus ouverts sur. Et c'est pas vieux, 63 ans, parce que je sens qu'on va me tomber dessus. Mais c'est vrai que la nouvelle génération va être beaucoup plus ouverte sur montrer leur visage, leur vrai nom, où ils habitent, etc. Alors que nous. C'était vraiment c'est le vieil ordi familial et t'avais un petit peu les pubs qui nous faisaient peur, même à l'école où t'avais peur d'accepter des pseudos que tu connaissais pas sur MSN parce qu'on savait jamais qui était derrière, quoi. Et aujourd'hui, ça s'est un peu perdu.
Oui, oui, non, mais clairement. Après, je pense que ça dépend vraiment des parents, quoi. Quand j'étais en salon là, avec ma maison d'édition, on rencontrait une dame qui avait acheté du coup mon roman pour sa fille ado, quoi. Et donc on lui demandait si la jeune fille était sur les réseaux sociaux pour éventuellement s'abonner à mon compte, s'abonner à celui de la maison d'édition et tout ça. Et du coup sa mère disait que non, qu'elle n'avait pas encore le droit, et je pense qu'elle avait peut-être 15 ans cette personne.
Okay,
du coup je pense qu'il y a vraiment des parents qui sont éveillés maintenant aux dangers, enfin à tous les dangers qui peuvent aller de pair avec les réseaux et tout ça, et d'autres qui à mon avis soit connaissent pas, soit s'intéressent pas, et du coup laissent vraiment leurs enfants libres, quoi. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, ma mère, elle s'intéresse pas mal à tout ce qui est Internet, tout ça. Enfin, ça l'intéressait bien, quoi. Donc, je pense qu'elle a vraiment ce truc de « Oh non, ma fille, il va se faire enlever par quelqu'un qui leur a donné rendez-vous.
» C'est trop ça, à la sortie de l'école. Non, je comprends parfaitement. Ok, d'accord. Écoute, je voudrais revenir sur ton pseudo, Laure des Feuilles, qui au début, je prononçais mal avant de lire tes petits highlights sur Insta. Je prononçais Lord,
comme
un Lord en Écosse, tu vois, ou en Angleterre d'ailleurs. Et pourquoi ce pseudo? Et pourquoi un pseudo aussi? Parce que je parle souvent de noms de plume, donc des noms composés qui peuvent être avec un vrai prénom ou autre. Mais un pseudo complet pour signer un roman, c'est rare, on le voit sur les réseaux, mais pas forcément sur une couverture. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu une histoire autour de ça?
Oui, bien sûr. Alors, donc Laure des Feuilles, tout simplement, je cherchais un pseudo à utiliser pour Instagram. En fait, j'avais pas super envie d'utiliser le format prénom, nom de famille, autrice. Je sais pas trop pourquoi, mais ça me... Je sais pas, j'avais envie peut-être quelque chose d'un peu plus fantaisiste, on va dire. Donc voilà, chercher un truc un peu en rapport avec la lecture, l'écriture. Et j'ai pensé à un souvenir d'enfance, en fait, où je regardais la fenêtre de ma cuisine un arbre. Et quand il était ensoleillé, en fait, je savais qu'il faisait beau dehors, qu'il allait faire beau, quoi. Et donc voilà, j'ai pensé à ça, le soleil, l'or des feuilles. Donc ça me plaisait bien. Je n'avais évidemment pas anticipé tous les problèmes de prononciation qu'il y aurait par la suite, mais c'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Et donc, et en fait, je l'ai gardé parce que quand j'ai été publiée, je commençais à avoir une petite communauté. Enfin, après, là, on est à peu près un peu plus de 1000, donc c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même un peu... c'est quelques personnes, quoi, qui me connaissent sous ce pseudo-là, et j'avais pas envie de changer, en fait. Et donc, j'utilise un pseudo parce que donc, je suis une traductrice. Et traductrice, je suis à mon compte. Et en fait, j'avais pas envie d'utiliser mon vrai prénom et nom de famille parce que j'assume toutes mes publications, évidemment, c'est pas ça, hein, mais c'est juste que je me dis que si des clients potentiels cherchent mon nom et mon prénom en ligne, j'ai pas forcément envie de les perdre en les mettant sur un site de maison d'édition, tu vois. Enfin, ça peut être un peu confusant, peut-être.
Oui.
donc voilà. Et après, j'aurais pu effectivement prendre un nom de plume, quelque chose qui se rapproche plus du format prénom, nom de famille. Mais en fait, j'aimais bien l'heure des feuilles, je m'y suis habituée. C'est mon pseudo Instagram. Voilà. Puis comme ça se fait un peu, j'ai vu plusieurs autoristes qui utilisent ce format avec juste un seul nom en fait. Je me suis dit, bon, bah allez, allons-y.
Ok, très bien. Oui, c'était pour la continuité aussi, comme tu disais, de ta communauté, quoi. Okay.
Oui, c'est ça, en fait. Et pour le coup, j'aurais peut-être, si je voulais quelque chose d'un peu plus classique, j'aurais peut-être dû y penser avant. Mais bon, maintenant que c'est fait, moi, j'aime bien mon pseudo, donc je me dis bon.
Oui, puis je pense que ça va bien aussi avec, oui, avec ton genre actuel aussi. On va revenir sur la cozy fantasy un peu plus tard. Et peut-être que, je sais pas, pour de la romance ou peut-être du thriller, ça aurait pu déstabiliser certains lecteurs. Mais pour le genre dans lequel tu évolues actuellement, ça se prête bien. Eh bien, je voulais continuer sur justement les univers qui t'inspirent, parce que c'est vrai que, donc voilà, en lisant ton pseudo et puis en parlant de cozy fantasy, tout de suite j'ai imaginé quelque chose comme la terre du milieu, tu vois, la côté, les hobbits, enfin les petites maisons un peu dans la prairie. Ce genre de choses. Et en plus, si on regarde la deuxième quête, au niveau de la couverture, on a un petit peu cette ambiance-là. Oui, est-ce que c'est un univers qui t'a inspiré, ou est-ce qu'il y a d'autres séries, films, sagas qui t'inspirent pour ton écriture au quotidien ?
Écoute, je pense que le Seigneur des Anneaux a dû m'inspirer, enfin en tout cas les films que j'ai vus quand j'étais jeune, c'est pas une inspiration recherchée, consciente, mais bon, je les ai quand même vus, c'est un imaginaire qui imprègne, je pense, toutes les personnes qui écrivent de la fantasy aujourd'hui, en fait, donc je pense que tu peux pas dire que c'est pas une inspiration. Tu me demandais du coup les univers.
Oui, est-ce qu'il y a peut-être d'autres films, sagas, musique même aussi qui t'inspirent au quotidien ? Dans quoi tu puises un petit peu ton inspiration ?
Alors en fait, je ne pourrais pas vraiment te citer d'œuvres ou de livres ou de films précis qui m'ont inspiré, mais en fait, moi, ce que j'aime bien, j'adore vraiment les autoristes qui arrivent à distiller une atmosphère, tu sais, particulière dans leurs œuvres, donc que ce soit niveau film ou livre, etc. Par exemple, en cinéma, je trouve que l'univers de Tim Burton a quelque chose de super caractéristique. Bon, alors ça n'a rien à voir avec la deuxième quête, hein, mais c'est pour te donner une idée de... c'est pour te donner une idée un peu du type d'ambiance que j'aime bien, quoi. En livre, j'adore toutes les œuvres de Neil Gaiman aussi. Je trouve que pareil... tu sais tout de suite que c'est lui qui a écrit et voilà, c'est tout très caractéristique, quoi. Donc c'est pas vraiment des choses qui m'inspirent dans mes textes, mais c'est plutôt une façon de faire et un art d'écrire qui m'inspire, tu vois. C'est quelque chose que j'aimerais bien arriver à mettre en place moi aussi à terme, où tu sais, t'arrives dans l'atmosphère et tu sais tout de suite que c'est moi qui l'ai créé, quoi.
Ouais. Ok, d'accord. Alors, je voulais te poser la question que peut-être beaucoup d'auditeurs vont se poser, c'est qu'est-ce que c'est la cozy fantasy finalement ? Parce qu'on pourrait traduire ça par la fantasy réconfortante, la fantasy douce. Je connaissais le cozy mystery, qui était un petit peu les thrillers plus ou moins doux, les enquêtes un peu marrantes comme on peut voir fleurir, mais pas la fantasy cozy. Donc, qu'est-ce qui la sépare un peu de la fantasy traditionnelle ?
Alors, en fait, la cozy fantasy, donc déjà, c'est un sous-genre qui est assez récent. Enfin, évidemment, il y avait des œuvres qui existaient déjà et qui relevaient de ce sous-genre, mais c'est juste que personne n'avait pensé à les appeler comme ça, quoi. Si tu veux, la cozy fantasy... c'est la fantasy au début du Seigneur des Anneaux, quand Bilbon est en train de fêter son anniversaire, quoi, tu vois. Du coup, c'est une fantasy qui va avoir des enjeux un peu moins élevés que, par exemple, en heroic fantasy ou en dark fantasy ou ce genre de choses. Donc avec une atmosphère plus douce. Et voilà, les enjeux vont être davantage à hauteur humaine et axés sur soit l'évolution des personnages ou les relations entre les personnages. Ça va être moins des grandes quêtes épiques où c'est le sort du monde entier et la lutte du bien contre le mal qui est en jeu. C'est plutôt quelque chose de qui se passe à hauteur humaine et qui est très axé sur tout ce qui se passe au niveau des personnages, quoi. Et souvent, c'est assez aussi chaleureux et réconfortant, quoi. J'imagine qu'il pourrait y avoir de la cozy fantasy super déprimante, mais en tout cas, dans les titres qui sont déjà publiés, l'ambiance qui se dégage, voilà, c'est plutôt quelque chose d'agréable, de doux, de lumineux, comme une petite après-midi où tu lis sous la couette.
Ouais, donc quelque chose qui se veut un petit peu plus léger, c'est des échelles différentes. Donc tu pourrais quand même avoir, par exemple, des dragons ou autres, mais pas des grandes batailles entre deux immenses royaumes avec 36 armées, si j'ai bien compris.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, tu pourras tout à fait avoir des dragons et avoir toutes les créatures qui te plaisent, et même tous les univers, tous les types d'univers qui te branchent, en fait. Hein. C'est pas du tout... C'est pas fermé, quoi, comme catégorie, mais c'est vrai que si après, tu vas avoir des pages et des pages de descriptions de batailles avec des enjeux de lutte de pouvoir dans les royaumes et tout, ça se rattachera plutôt à un autre genre, de la fantasy.
D'accord, ok, très bien. Eh bien, est-ce que tu pourrais nous présenter ton roman, donc la deuxième quête qui est éditée aux éditions Les Arts des Mots, vu qu'on est dans le vif du sujet.
Mais oui, allons-y. Donc la deuxième quête, c'est le premier tome d'une trilogie, donc le titre de la trilogie c'est « Les douces et joyeuses chroniques des secondes », mais bon, on en parle surtout sous le nom du premier tome, à savoir la deuxième quête. Et donc la deuxième quête, ça raconte l'histoire d'une jeune femme, Emma, qui habite donc tranquillement dans son petit village. Elle est fiancée à un jeune homme qui est le héros d'une guerre qu'a subi le royaume un an auparavant. Et donc, elle attend son mariage avec impatience. Et le seul souci, c'est que son fiancé reçoit un message du roi qui lui demande de repartir en mission, en fait. Et au lieu de proposer à Emma de l'accompagner comme elle l'attendait et l'espérait, son fiancé, qui s'appelle donc Almaric, se barre et lui laisse une lettre en plus pour lui dire « Ah bah, désolé, je pars en mission, je reviens bientôt, t'inquiète pas, bisous quoi ». Emma, donc, très très sympa, on adore. Emma n'est donc pas très contente et elle décide en fait de se lancer à son tour dans sa propre quête, d'où la deuxième quête qui est le titre du roman. Et donc, elle prend son baluchon, elle rassemble toutes ses petites affaires et donc elle part dans sa propre quête au départ pour récupérer son fiancé et le convaincre de la prendre avec lui dans son aventure. Et puis après, il va lui arriver plein de choses, elle va faire de nouvelles rencontres. Elle va découvrir des choses sur son royaume, sur elle-même, qui font qu'elle va peut-être changer un peu d'objectif, mais j'en dis pas plus pour ne pas spoiler.
D'accord, très bien. Donc oui, il y a vraiment quand même ce voyage presque initiatique et découverte de soi, sans, comme tu disais, que le monde s'écroule. Enfin, il y a son monde peut-être qui s'écroule, effectivement, parce qu'il y a son fiancé qui part en mission sans elle, mais c'est pas tout ton univers qui tourne autour de cette quête. Et donc il y a cette découverte de soi. Ok, très bien. Là j'ai envie de partir en en aventure du coup, ça me donne envie.
Oui voilà, c'est ça. À savoir que pour une cozy fantasy, enfin je sais pas si tu connais un peu des références dans ce
absolument genre. Pas. Donc si tu as des recommandations, dis-moi, dis-nous, je suis preneuse.
Bah écoute, donc c'est surtout des titres qui sont anglophones pour l'instant. Mm-hmm. Je pense que ça va arriver sur le marché francophone, mais voilà, ça prend son temps. À part mon livre, bien sûr. Mais en tout cas, le gros titre vraiment en cozy fantasy, c'est Légende et Laté, d'un auteur qui s'appelle Travis Faldry, je crois. Et donc, en fait, là, c'est sur une orque qui prend sa retraite de mercenaire et qui va ouvrir un café, en fait.
Ok, d'accord.
Donc voilà, c'est vraiment enjeu hyper, hyper faible, comme on a dit, évolution de l'héroïne qui suit son petit rêve personnel. Donc ça, c'est vraiment la référence en cozy fantasy, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la deuxième quête, du coup, les enjeux sont quand même un chouï plus élevé que ça, quoi. Donc, on a une trajectoire de l'héroïne qui est personnelle, mais auxquelles vont quand même se mêler peut-être des enjeux un peu plus vastes. Donc voilà, encore une fois, je ne spoile pas, mais...
Ok, c'est vrai que, tu vois, comme tu parles de cette référence donc par rapport à une marque... Bon, tu me dis si je me trompe, mais ça me fait penser un petit peu si dans les jeux de rôle de type Donjons et Dragons, on s'intéressait non pas aux personnages que nous, on va jouer, mais plutôt aux NPC ou PNJ, donc les personnages non-joueurs qu'on rencontre, à qui on va parler, mais on ne connaît pas trop leur histoire. Et là, c'est un petit peu, ton tavernier, ça peut être un elfe et tu suis son quotidien, quoi. Donc oui, je comprends parfaitement le côté cosy. Ça fait sens.
Ouais, bah, c'est exactement ça en fait. Et en fait, c'est vraiment l'idée de départ de la deuxième quête. C'est qu'au départ, Emma, mon héroïne, c'est vraiment, enfin, dans une fantaisie narrée d'un point de vue classique, on va dire, elle, c'est vraiment une PNJ, quoi. Tu vois, c'est son fiancé, Almaric, qui est le héros. Lui, c'est vraiment en mode élu. Il y a une prophétie, il y a une quête, il y a une bataille, tout ça. Et elle, elle aura vraiment été la fille. Tu la vois 3 pages au début, 3 pages à la fin. Ils se marient, voilà, quoi. C'est un peu la fin de l'histoire, quoi. Mais là, ce que j'avais envie de faire avec ce livre, c'est bah, justement de faire passer ma petite PNJ lui donner un rôle de personnage principal et de voir un peu bah, justement comment elle se dépatouille une fois que le héros n'est plus dans l'équation.
Ok, d'accord, très bien. Et comment ça s'est passé au niveau du world building, donc la construction de ton univers? Parce que c'est vrai que dans tout type de fantasy, ça m'a l'air tellement monstre, tellement compliqué d'avoir voilà, un univers, une terre, une planète, peu importe, complètement différente de la nôtre, avec bah, parfois des créatures magiques aussi.
Écoute, je t'avoue que le world building, c'est pas ma spécialité ni ce que je préfère faire. Donc en fait, moi, si tu veux, tu vas voir toutes mes histoires, elles vont vraiment être très axées sur les personnages. Donc évidemment, il y a un univers de fantasy, un royaume avec des royaumes qui sont ennemis, de la magie et tout ça. Mais en fait, moi, je construis davantage le world building pour servir mon intrigue et mes personnages plutôt que l'inverse. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment l'inverse. Ils ont une idée forte de world building et toute leur intrigue se développe peut-être à partir de ça ou autour de ça. Moi, c'est vraiment, on part d'abord des personnes et de ce qui doit leur arriver. Et après, je construis un peu mon monde et l'univers du récit autour, en fait.
D'accord.
Et donc après, en faisant ça, parfois, j'ai des idées qui me plaisent. Et donc, je me dis, ah bah super, ce point, ça va être intéressant de le développer dans le world building. Et du coup, bah, je construis quelque chose autour, en fait. Mais c'est vrai que moi, ça va vraiment partir des personnages. Et je m'appuie sur les personnages et sur les objectifs qu'ils poursuivent pour après bâtir le monde autour. Donc, je ne sais pas si c'est super orthodoxe. Je pense que je ne suis pas la meilleure personne à qui demander pour construire un world building de fantasy.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai bah, qu'il y a autant de romans que d'écrivains. Et c'est cool de voir qu'on a tous des façons de faire différentes dans notre façon de construire nos personnages, construire nos univers. Donc, c'est juste une autre prise de vue, quoi. Et je vois très bien de quelle manière, un peu en toile d'araignée, tu vois, comme si tu brodais autour. Enfin, je sais pas si je fais une métaphore un petit peu couture, mais bon, en tout cas, quand tu
me parles... Non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Enfin, tu sais, c'est un peu comme si tu as ton personnage qui avance et en fait, le monde, il se colorise autour, quoi. Tu vois, il se construit,
ça, ouais.
Il se met en couleur autour du personnage.
Mm-hmm. Ok, et donc bah, la deuxième quête a eu, alors je ne sais pas si je peux dire plusieurs vies, mais a eu un cheminement parce que tu as fait une partie sur Wattpad. Donc comment, est-ce que tu as publié d'abord sur Wattpad ou tu l'avais écrit, puis ensuite tu as publié une partie, puis tu l'as proposé en maison d'édition? Quel a été un petit peu son parcours jusqu'aux librairies?
Alors, c'est vrai que le roman a eu un parcours assez long, on peut dire ça comme ça. Ça fait un petit moment que je suis dessus. Bon, forcément, premier roman, tu tâtonnes un peu plus que dans tes œuvres suivantes, normalement. Ce que j'avais fait, c'est donc j'avais terminé le livre. J'avais fait une première salve d'envoi à des maisons d'édition, qui n'a évidemment rien donné, puisque vu l'état du texte, quand je l'ai envoyé, c'était bon. L'histoire originale était là, hein, mais bon, niveau forme, voilà, il y avait de quoi travailler encore un petit peu. Quand tu débutes et que tu envoies, tu vas toujours un peu la fleur au fusil en disant « Mais c'est vraiment super, il est abouti mon texte !» Et en fait, pas tant que ça. Mais bon, comme je savais déjà, j'en savais moins que ce que je sais maintenant, mais je savais déjà que bah, c'était très très difficile d'obtenir un oui d'une maison d'édition, quoi. Je m'étais dit « Bon, bah écoute, tu l'envoies, tu attends, et ça donne rien. » Tu le mettras sur Wattpad et tu crées un compte Instagram dans la foulée pour en faire la promotion en fait. Donc bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Après tous mes envois n'ayant rien donné, je me suis dit bon bah ok, on passe au plan B. Donc je me suis dit que j'allais publier sur Wattpad, donc en feuilleton avec un ou deux chapitres par toutes les semaines, quoi. Et en parallèle, créer le compte bah, pour commencer à parler un peu du livre et trouver des lecteurs et lectrices potentiels. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, j'ai mis sur Wattpad, j'ai publié en feuilleton, comme je vous dis. La publication s'est terminée. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence à faire un petit moment, hein, il faut dire. Je pense que je l'avais déjà réécrit au fur et à mesure en mettant sur Wattpad. Je pense que je suis encore repassée dessus pour le retravailler. J'ai fait une autre salve d'envoi, me semble-t-il, qui n'a rien donné non plus. Mais là, j'ai eu un refus détaillé. Ah non, pardon. J'ai eu un oui d'une petite maison, mais moi, j'ai refusé parce qu'en fait, les conditions ne convenaient pas. Ouais. J'ai eu un refus détaillé aussi d'une autre petite maison qui m'a vraiment paru très intéressant. Enfin, je trouve que déjà, quand tu arrives à l'étape des refus détaillés, t'es un peu plus... tu dis « Ok, je pense que je commence à voir un peu le bout du tunnel, quoi. Même si c'est toujours pas ça, ou ça correspond pas à leur ligne édito, ou je sais pas quoi, mais au moins, tu sens que tu avances, quoi. »
C'est formateur.
Exactement. Et puis voilà. Et donc, en parallèle, j'ai commencé à écrire aussi le tome 2 et après le tome 3. Parce que forcément, quand tu soumets... Il y avait ça aussi... bon, évidemment, le texte... que j'ai soumis au départ n'était pas abouti, mais c'est vrai que quand tu pars sur une trilogie et qu'en plus tu soumets un tome 1 et que les deux autres ne sont pas écrits, c'est quand même pas, ça joue pas non plus en ta faveur, quoi.
Ouais.
Auprès des maisons d'édition. Et donc voilà, donc il a fait sa vie sur Wattpad, à côté de ça, j'ai développé un peu le compte Instagram, j'ai commencé à gagner des lectrices et tout ça, donc j'étais vraiment contente d'avoir des premiers retours et tout, voir que les gens aimaient et avaient envie de savoir la suite, bah forcément. Ça te booste aussi, quoi. Tu te dis, ok, bon, peut-être que j'ai pas encore trouvé la ME à mon pied, quoi, mais au moins il y a des gens qui aiment et je pense qu'il a du potentiel, quoi. Et puis finalement, une amie autrice, mon amie Cécilia, m'a mis en contact avec sa maison d'édition Les Arts des Mots, à qui le texte a plu, et voilà. Et puis on l'a publié.
Ok, d'accord. Bah, tu vois, c'est super intéressant et ça rappelle pour peut-être les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore de livre publié, mais dont c'est le rêve, que bah, c'est un cheminement très long, l'édition, et que bah, surtout pour un premier roman, c'est parfois un petit peu compliqué, et qu'il faut faire un premier envoi, enfin en tout cas plusieurs envois, mais un premier batch, et peut-être un deuxième, peut-être un troisième, et que des fois il y a des non, des fois il y a des non mais, des fois il y a des oui mais ça ne nous va pas, et que c'est pas parce qu'on a un oui qu'il faut automatiquement dire ok par rapport aux conditions. Et que c'est... Voilà, comme on disait, c'est formateur, mais il faut s'accrocher.
Ah oui, non, mais ça c'est sûr que... Après, bien sûr, tu as des success stories avec des gens qui... Ça va être leur premier roman, et les personnes sont vraiment super jeunes, et on va leur dire oui tout de suite, ça va être une immense maison, et il va y avoir une promo enfin, super importante autour du bouquin, et c'est génial, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment pas... C'est plutôt l'exception que la règle, quoi, et souvent, c'est vraiment... Puis en plus, tu commences à écrire, tu connais... pas grand chose, quoi. Enfin, tu vois, tu sais pas comment ça marche forcément le monde de l'édition. Tu te dis que si on te refuse, c'est parce que ton texte il est pas au niveau, mais alors qu'en fait, ça se trouve, il y a tellement de critères. Bon, peut-être qu'il est vraiment pas au niveau comme le mien quand je l'ai envoyé au début, mais il y a tellement de critères honnêtement qui entrent en jeu que.
Alors, si tu veux, si t'es ok pour en parler, pour quelles raisons par exemple tu avais refusé le premier contrat, le premier oui qu'on t'a proposé?
En fait, j'avais demandé quelle serait l'étendue du travail édito sur le texte et il m'avait dit que vraiment, il n'y en aurait pas beaucoup en fait. Et donc, ça ne me convenait pas forcément parce que autant au niveau de la rémunération qu'il proposait, c'était vraiment honnête et je pense qu'il n'y a vraiment pas du tout de mauvaise intention de leur part parce qu'il y a aussi tellement de maisons d'édition qui... Maison d'édition, je mets des guillemets virtuels, qui essaient de te faire payer je sais pas quoi, ou qui te donnent des droits d'auteur ridicules, enfin bon bref, c'est qui ne sont pas, qui ont vraiment des mauvaises intentions, quoi. Là, il n'y a vraiment aucune mauvaise intention, et je pense qu'il y a des gens qui vont être ravis de publier dans cette maison, mais c'est juste que moi, je me dis, quitte à se faire publier par une maison d'édition, autant qu'il y ait un vrai travail édito dessus, en fait. Moi, j'ai envie de progresser, j'ai envie de m'améliorer, si c'est juste pour le balancer et... céder mes droits dessus et avoir une couverture qui ne me plaît pas forcément, et en plus il n'y a pas de travail édito ou quasiment pas, pour moi ça n'avait pas d'intérêt en fait.
Tout à fait, ouais. Mmh. Mais c'est bien déjà que tu aies eu ce recul parce que. Bon, après peut-être qu'il y a une partie de l'âge, je sais pas, mais. parfois, pour un premier contrat, moi j'ai été très chanceuse, donc c'est pas ce cas-là, mais je connais des gens qui ont eu beaucoup de désillusions parce qu'ils veulent tellement être publiés, et je comprends que ça soit un rêve, qu'ils vont accepter des conditions ou qu'ils vont se retrouver un petit peu piégés d'un contrat qui peut être abusif ou qui ne leur ressemble pas. Donc le fait que tu t'es dit, bon, bah, c'est cool d'avoir un oui, mais ça me correspond pas, je préfère continuer ailleurs, c'est bien.
Bah oui, comme tu dis, je ne sais pas si c'est tellement une question d'âge que d'expérience, entre guillemets, même si je n'ai pas l'expérience la plus incroyable du monde de l'édition, mais j'étais déjà sur Booksta depuis un moment. Je voyais, enfin, tu sais, tu écoutes des podcasts d'écriture, tu entends les gens raconter leurs mauvaises expériences, tu réfléchis aussi quelles sont les conditions que je veux pour mon livre, en fait, parce que parfois, quand tu es aspirant, quand tu es auteuriste et que tu aspires à être publié, tu as l'impression qu'en fait, la dernière étape, genre le Saint Graal, c'est avoir le oui d'une ME pour publier, quoi. Mais en fait, c'est vraiment, bon, c'est une étape super importante et c'est génial, mais t'es limite au début de ton chemin, en fait. Parce qu'après, faut vendre, faut retravailler le texte, déjà normalement, avec des corrections édito. Faut en faire la promo, parce que maintenant, même dans les grosses ME, c'est quand même beaucoup attendu de l'auteuriste qu'elle fasse sa propre promotion. Faut le vendre, faut aller en salon, faut aller en dédicace. Faut tout ça, faut continuer à maintenir une hype si t'as pas envie que ton livre soit oublié au bout de 3 mois. Et en fait, faut être... tu t'embarques, bah, limite, dans une quête, en fait. Et là, t'es contente d'avoir des bons compagnons et compagnes de voyage pour marcher avec toi sur le chemin de l'édition, parce que sinon, ça peut être vraiment très... Bah, ça peut virer au cauchemar, en fait. C'est arrivé à beaucoup d'autoristes, quoi.
Malheureusement, ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est important l'aspect communauté, d'être entouré, de poser des questions, parce qu'on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a été édité dans telle maison, tatata. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur un contrat ou une clause ou ce genre de choses, parce que ça peut vous sauver et tout dépend de la... Malheureusement, désillusion, parfois c'est compliqué de reprendre ses droits sur un contrat, donc le but c'est pas non plus de léguer son roman et de plus pouvoir rien en faire. Donc voilà, aujourd'hui il y a plein de possibilités.
Ouais. Oui, et je voudrais aussi dire que c'est pas la taille de la maison qui compte, parce que tu peux, en fait ça dépend vraiment de quelles sont tes ambitions pour ton livre, parce que par exemple, Les Arts des Mots, la maison d'édition qui édite mon livre est pour l'instant encore une petite maison d'édition, mais c'est pas tellement ça l'important, en fait, c'est que pour la deuxième quête, c'était un projet un peu, comment dire, hybride, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais toute la hype, on va dire, autour de la cozy fantasy, elle est arrivée un peu, enfin, c'est vraiment très récent, en fait, et avant que je puisse parler de ça, que je puisse parler de cozy fantasy, en fait, c'était juste de la fantasy adulte, mais trop soft pour être catégorisée, enfin, tu vois ce que je veux dire, elle était un peu, c'était un peu un projet hybride, quoi. Et je savais que ce serait sans doute avec une petite maison que je trouverais mon bonheur pour ce projet, parce que souvent elles sont plus, comment dire, plus enclines à prendre des risques et à laisser leur chance aussi aux jeunes auteurices. Enfin,
oui, pour un projet niche, quoi.
C'est ça, exactement. Et en fait, et donc je suis allée avec mes éditoristes parce que je le sentais et qu'on a vraiment discuté et qu'elles ont répondu à toutes mes questions et tout ça. Mais peut-être que pour quelqu'un dont le rêve, ça aurait été de se faire publier par Hachette, ça n'aurait pas convenu, en fait.
C'est sûr.
Et peut-être que la maison à qui moi j'ai dit non, ça se trouve, elle est parfaite pour une autre autrice, quoi. Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment se demander quelles sont toi, tes propres aspirations et de quoi tu rêves pour ce texte. Et ça peut vraiment varier d'un texte à l'autre, en fait. Et pas seulement, penser au prestige et à ce que vont dire les voisins, quoi.
Ouais, tout à fait. Oui, et puis comme tu dis, il y a tellement de facteurs. Peut-être qu'on t'a dit non à ton roman il y a un peu plus d'un an quand t'as fait tes premières soumissions. Bon, tu as signé, donc là c'est acté, mais peut-être que si tu avais réessayé aujourd'hui, cette année, comme la cozy fantasy est un petit peu plus connue, t'aurais eu des réponses différentes, ou peut-être toujours des noms mais détaillés. On peut remuer ça et tourner ça dans tous les sens. Je pense qu'il faut pas se torturer. Forcément, on est déçu quand on a un nom, mais parfois il y a une raison, et c'est juste que tu devais trouver une autre maison et te sentir à la maison avec celle-ci, donc il faut trouver chaussure à son pied, et c'est pas facile puisqu'il y a beaucoup de maisons. Alors, avant de continuer, je voulais faire un petit peu ma fameuse, je dis ça comme si c'était connu de manière planétaire, mais ma petite interview Inception, comme j'aime bien l'appeler, qui en ce moment est une interview catastrophe, donc c'est une interview dans l'interview, où je vais te poser deux petites questions catastrophes pour savoir ce que tu ferais dans cette situation. Donc, acceptes-tu cette petite torture?
Avec plaisir.
Très bien. Alors, c'est à complètement à l'opposé du coup du sujet d'aujourd'hui et de ta cozy fantasy, mais alors, la première situation, un ouragan d'une intensité sans précédent dévaste ta région et laisse derrière elle, ou derrière lui d'ailleurs, c'est un ouragan, un paysage de destruction totale. Tu dois vivre sous l'eau à présent. Donc, à quoi ressemble ton quotidien?
Tu dois vivre sous l'eau.
Ouais.
Entièrement sous l'eau ou tu veux dire que c'est inondé?
À toi de me dire. J'ai juste marqué sous l'eau, donc tu peux utiliser ton imagination, à toi de me dire.
Bah écoute, si c'est après un ouragan et qu'on est tous sous l'eau, je pense qu'on est juste décédés en fait.
C'est possible, mais après, si on est en fantaisie, il y a peut-être d'autres manières.
Ah, après, si on est en fantasy, là, tu peux carrément imaginer tout un système de villes sous-marines. Ou alors, non, pas tellement sous-marines, en fait. Un peu surpilotis, tu sais. Je me demande si on va pas y venir, d'ailleurs, au bout d'un moment, avec la montée des océans et tout ça. Des constructions surpilotis, où, en fait, je sais pas, plus tu es haut. Enfin, plus tu es haut placé dans la société, plus tu es haut en fait, et tu as accès, je sais pas, à des super rooftops et tout ça. Et en fait, moins tu as d'argent, plus tu es bas et tu es en contact avec, bah, avec l'eau en fait, avec potentiellement des créatures marines dangereuses qui rôdent. Les gens, faut qu'ils fassent de la plongée pour aller réparer les fondations des bâtiments sous l'eau qui sont rongés par la corrosion et tout.
Ouf. Bah là, je crois qu'on a livré aux auditeurs la dystopie parfaite pour s'il y a un souci dans l'avenir, qu'est-ce qu'on pourra faire? Mais non, c'est une excellente idée. Ok, très bien. La deuxième situation, c'est une invasion extraterrestre donc qui se produit soudainement. Comment tu te sors de cette attaque intergalactique?
Alors, est-ce qu'on est sûr qu'ils nous attaquent déjà? Est-ce qu'ils n'arrivent pas
Ah, je sais
pour
pas.
nous rendre visite?
Tu sais, dans les films, on voit souvent ça comme des attaques, mais peut-être qu'ils ont juste envie de faire du tourisme, hein. On ne sait pas.
Écoute, ça dépend. Après, s'ils viennent juste faire du tourisme, peut-être que, je sais pas moi, un guide pour extraterrestres, ça pourrait être un métier d'avenir.
Franchement, grave. Surtout dans la traduction, je pense qu'il y a quelque chose à faire.
C'est ça, exactement. Il y a des trucs à faire. Bon, après, si vraiment ils nous attaquent, je pense que bah, le seul moyen, c'est de choper des armes et te défendre, quoi, tu vois. Moi, je me dis toujours que s'il y avait une invasion de zombies, j'aimerais bien avoir genre un lance-flamme ou un truc comme ça. Parce que c'est une arme, c'est une arme que tu peux utiliser un peu à distance.
C'est une très très bonne idée. Je sais pas où tu le trouverais, à part le peut-être fabriquer toi-même, mais je pense que c'est plus utile qu'un fusil ou qu'un poignard, parce que sinon tu es obligé d'être au corps à corps, quoi. Donc un
Bah,
lance-flamme,
c'est ça.
c'est la bonne idée.
Donc, soit guide, soit guerrière avec un lance-flamme en fonction des intentions.
Les deux salles, deux ambiances, parfait, opposé. Mais c'est validé. Écoute, torture terminée, on peut revenir à l'interview principale. Et bah écoute, on va revenir du côté cosy parce que bah tu écris de la cosy fantasy, mais tu te présentes également comme autrice cosy sur les réseaux sociaux, etc. Donc en quoi ça consiste? Est-ce que c'est quoi être auteur cosy? Est-ce que je peux rejoindre le club ou pas?
Et bien, écoute, évidemment, le club des auteurs et autrices cosy est ouvert à tous et toutes. Non, en fait, je parlais d'autrices cosy parce que on entend souvent les gens, enfin, régulièrement en tout cas, se décrire comme autrices sadiques, ces gens qui adorent torturer leurs personnages et leur faire vivre 12 milliards de péripéties, tout ça. Et moi, c'est vrai que j'ai un petit faible pour mes personnages. Je déteste les faire souffrir.
Je comprends.
Donc, évidemment, ils vont quand même vivre des choses parce que sinon, c'est juste des personnes en train de boire du thé et manger des gâteaux pendant 300 pages, quoi. Mais j'avoue que j'ai vraiment tendance à privilégier les fins heureuses et voilà quoi, la communication entre les personnages, ce genre de choses quoi. Si l'univers peut être, enfin s'il peut y avoir de l'adversité dans l'univers, j'aime bien que mes personnages en tout cas soient soudés entre eux et pas isolés et que ils soient pas dans le désespoir le plus total. Voilà, c'est ça que je décris comme autrice cosy.
D'accord, très bien. Bon, va falloir que je rende mon badge du club sadique avant, mais j'essaierai d'aller toquer à votre club, voir si je peux faire le transfert ou pas. Et donc, bah, pour revenir sur ta profession, parce que tu es traductrice, je voulais savoir comment ça a influencé, ou peut-être te bloquer d'ailleurs, dans ta casquette d'autrice, et comment tu t'organiser un petit peu au quotidien, parce que bah, c'est quand même aussi très littéraire. Et peut-être est-ce que justement parfois ça t'embrouille ?
Écoute, je pense pas que ça m'embrouille. Le côté positif avec, qui va te faire avec le fait d'être traductrice, c'est que tu es quand même censé avoir une très bonne maîtrise de l'orthographe, la grammaire, tout ça. Donc ça forcément c'est un point positif quand tu écris aussi, quoi. Et sachant qu'en plus, on est souvent assez sensible aux anglicismes quand on fait de la traduction et on évite d'en mettre du coup dans nos écrits normalement. Après, ce qui peut être plus négatif, c'est que c'est quand même, t'es toujours devant l'ordinateur quoi. Donc, c'est vrai que si ton métier, ce qui te permet de gagner de l'argent en tout cas, c'est d'être en train de taper devant ton ordi et que ton hobby slash métier qui ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est aussi d'être devant l'ordi en train de taper. Ça fait, voilà, c'est beaucoup les fesses sur ta chaise de bureau, quoi.
Je comprends, c'est mon quotidien. J'ai l'impression de passer 12 heures par jour sur mon ordi.
Donc voilà, c'est ça en fait. Après, je pense qu'il faut vraiment se faire violence. C'est un peu un rythme à trouver quand on se dit, ok, là tu arrêtes. Parce qu'en plus, c'est tentant, quoi. Tu bosses, après, tu as envie d'enchaîner sur. D'écrire un peu. Là, je suis en plein premier jet donc, de mon troisième tome, donc j'ai vraiment envie d'y aller à fond, quoi. Donc c'est vrai que. Je pense qu'il faut vraiment se dire, ok, sors de chez toi ou fais un peu de sport, de yoga ou quoi, tu vois, lâche l'ordinateur parce que sinon tu vas vraiment être, même pour le corps, c'est pas idéal quoi d'être vraiment tout le temps statique comme ça, donc je pense que ce serait là le côté négatif, mais bon, c'est vraiment un côté négatif, c'est pas dramatique quoi, enfin tu vois, moi en plus je suis à mon compte donc je peux aménager mon emploi du temps, c'est vraiment, c'est super pratique.
Est-ce que tu es donc traductrice littéraire ou est-ce que tu traduis dans différents univers ?
Non, moi je suis traductrice pragmatique, donc je travaille pour des organisations, des choses comme ça. Je traduis des choses qui n'ont pas de rapport avec la littérature en fait. Ça c'est chouette parce que c'est vrai que si tu dois vraiment traduire des livres et après écrire des livres, j'ai des copines qui le font, mais là c'est quand même très 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 libre quoi. Donc là je m'évade avec un petit rapport.
Quelque chose de scientifique, après tu reviens aux orques et aux autres quêtes, donc ouais, c'est une différenciation quoi. Okay. Sur Insta, tu parles beaucoup aussi de ton quotidien, donc beaucoup de ton anxiété, de ton caractère introverti, que ce soit en story ou en post. Est-ce que donc ces traits, dans lesquels je me reconnais énormément, sont des freins dans ton écriture ou au contraire est-ce que c'est peut-être un coup de pouce de temps à autre dans le sens où on peut rencontrer des gens qui nous ressemblent sur internet ?
Écoute, c'est rigolo que tu me dises ça parce que j'avais pas l'impression d'en parler tant que ça. Évidemment j'en parle de temps en temps quand je raconte ma vie et parce que c'est rigolo, j'aime bien faire des blagues là-dessus, mais c'est vrai que comme quoi c'est marrant de voir un peu l'impression qu'on peut dégager et donner aux autres en fait sur les réseaux sociaux, sachant qu'en plus anxiété, moi je dirais plutôt que j'ai une nature angoissée, tu vois, mais c'est pas vraiment de l'anxiété qui serait handicapante ou de la phobie sociale, des choses comme ça, tu vois, c'est plutôt une nature un peu pas très détendue quoi. Mais est-ce que ça donne un coup de pouce? Écoute, je pense que le fait d'aimer passer du temps avec soi-même et de pas forcément avoir envie de, envie slash besoin de voir des gens tout le temps. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'autoristes, en fait. Forcément, si tu choisis une activité comme ça, c'est que tu aimes passer du temps en fonction de, avec des gens qui vivent dans ta tête. donc voilà. Mais c'est sûr que le fait de rencontrer bah, comme on disait tout à l'heure, de rencontrer d'autres autoristes sur, sur Insta, ça change tout en fait. C'est vrai que même si tu as beaucoup d'atomes crochus avec les gens que tu connais par d'autres moyens, moi j'ai vraiment trouvé ça incroyable en fait, en arrivant sur Instagram et en commençant à lier un peu des connaissances et des amitiés. En fait, c'est vraiment des gens bah, qui te ressemblent en fait, qui aiment les mêmes choses que toi, qui ont les mêmes angoisses que toi, ou les mêmes sources de joie aussi que toi, les mêmes rêves. Enfin, c'est sûr que c'est... Tu te dis, ah ok, en fait, je ne suis pas si bizarre que ça à être fatiguée et à se dire, ok, ah, j'ai passé 4 heures à cette soirée-là, c'est bon. Enfin, je vous ai bien vu, les gars, là, mais ça suffit, quoi. Tu vois, on se reverra une prochaine fois.
Moi, dans 3 semaines, laissez-moi me recharger, merci bien.
Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que le fait d'être en contact avec beaucoup d'autres gens qui pensent de la même façon, ce qui n'est pas forcément le cas avec mes amis de l'extérieur. J'ai aussi des amis extravertis. Il y a des gens très bien parmi les extravertis. Mais c'est vrai que parfois, si tu n'as que des extravertis, par exemple, tu peux te sentir un peu chelou aussi, quoi, en te disant, mais attends, c'est un peu bizarre. Est-ce que, pourquoi j'aime autant être toute seule alors qu'en fait, bah non, c'est juste la personnalité. On est beaucoup, beaucoup à être comme ça, en fait.
Ouais. Oui, et puis je pense que bah, on est un peu un produit de ce qu'on consomme, dans le sens où on voit beaucoup dans les films, en tout cas à une certaine époque, tout ce qui était films, séries, etc. Et même, bah, tu vois, tu parles de fantasy, c'était plutôt des archétypes de personnes super extraverties. Et je sais qu'en grandissant, je me disais, bah, moi, je ne suis pas comme ces personnages. Enfin, j'ai pas envie d'aller tout le temps voilà, dans une quête avec 10 000 compagnons. Je suis très sur les nerfs. Hein. Franchement, je préfère partir en quête toute seule. Donc, parfois, c'est un petit peu compliqué. Tout dépend de la pop culture qu'on ingurgite. Et, et c'est intéressant, voilà, avec bon, l'époque Skyblog, certes, forum, etc. Mais aujourd'hui, Insta et autres. De trouver d'autres gens qui nous ressemblent.
Bah oui, ça qui est magique en fait avec Internet, je trouve, c'est qu'il y a vraiment énormément de travers, ça c'est sûr, mais à la fois, ça t'ouvre une telle fenêtre sur des personnes qui éventuellement... Enfin, t'es vraiment qu'à une portée de clic de te faire de nouveaux amis, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, vraiment, j'avais pas... Enfin, j'ai des amis depuis vraiment très longtemps, depuis que je suis petite et tout, donc c'était pas un manque dans ma vie, mais... Là, les nouvelles personnes que j'ai rencontrées avec Instagram, c'est vraiment particulier, quoi. C'est vraiment des gens qui vivent un peu les mêmes choses que toi, et même pour d'autres hobbies, je sais pas, moi, si t'es fan d'armure médiévale, là, tu peux trouver en fait tout un univers d'autres fans d'armure médiévale qui sont aux quatre coins du monde et te faire de nouveaux amis, et ça peut vraiment changer ta vie, en fait. Donc, je trouve ça incroyable.
Tout à fait. Et bah écoute, c'est la transition parfaite sur ma prochaine question. Je ne me rappelle plus quel poste en détail, mais tu ouvrais un petit peu un débat que je trouve vraiment intéressant sur la création, donc l'aspect créatif à l'heure des réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est à double tranchant. Donc, quelle est ta position actuelle sur le sujet? Est-ce que tu penses que c'est plutôt positif ou alors au contraire, ça peut nous brimer?
Ah là là, je pense que ça mériterait limite un autre épisode de podcast.
Tout à fait.
Voir une table ronde sur le sujet, tellement c'est intéressant. Mais franchement, c'est les deux. Hein. Et je pense que ça dépend tellement du rapport, enfin de la signification que tu mets dedans et du rapport que tu peux avoir avec ça. En fait, à la fois, c'est génial parce que honnêtement, moi, s'il n'y avait pas eu Instagram, si j'avais écrit la deuxième quête, je ne sais pas moi... avant Internet, et que, enfin, sans Instagram et sans toute la sphère de Booksta et tout, j'aurais jamais connu ma maison d'édition, en fait, et je me serais pas fait tous ces copains auteuristes, et en fait, la deuxième quête, je pense que ne serait pas sortie, du coup. Ouais. Donc ça, c'est génial. Après, ça va de pair avec tellement de comparaisons, ça peut vraiment appuyer sur des boutons en toi qui sont pas du tout agréables, tout ce qui est jalousie, la comparaison, les gens qui disent des trucs horribles, qui laissent des reviews trop méchantes en taguant les autoristes, tu vois, qui vont aller se pourrir exprès leur notation. Enfin, tu vois, c'est vraiment le pire et le meilleur des êtres humains et des aspects de la création, en fait. Donc, je pense qu'il faut savoir quand s'impliquer dans les choses et quand s'en détacher, tu vois. Enfin, Par exemple, si tu vois que tu commences à... Ben, mettons, tu n'es pas encore publié ou ton livre ne sent pas beaucoup ou je sais pas quoi, et tu vois que des gens qui ont des énormes succès, je pense que si tu vois que ça commence à trop t'atteindre, c'est à toi de te dire, bah, en fait, là, je fais un pas en arrière et je me déconnecte un peu de tout ça. Et, ou pareil, si tu commences à être trop... moi, parfois, j'ai tendance à être hyper hypée, tu sais, par des trucs. J'ai d'autres meilleures idées. Je me dis, OK, je vais créer tel contenu, je vais faire ça, je vais faire des TikTok, je vais faire des machins. Et tu sais, tu commences à partir en boucle le soir avant de dormir. Là, il est minuit, tu t'es dans 6 heures. T'es là, mais attends, je vais faire un TikTok sur ce truc, ça va être trop bien. Donc là, pareil, tu vois, c'est plutôt enthousiasmant, mais ça peut être un peu survoltant, quoi. Donc, en fait, je pense que c'est à toi de savoir quand prendre du recul, mais c'est vraiment pas évident... Déjà pour des jeunes personnes, je pense que c'est pas évident. Même pour des personnes plus âgées, c'est pas évident. Donc, pour résumer, c'est pas évident.
Oui, d'accord, très bien. Et ça sera donc notre mot de la fin. Ce n'est pas évident. Merci beaucoup. Non, mais je comprends parfaitement ton point de vue. Et puis, comme tu dis, on pourrait faire un épisode de 2 heures sur le sujet. Donc, c'était juste pour une petite ouverture. Mais pour presque clore donc l'épisode, je voulais également parler de ta newsletter qui s'appelle Bruissement de feuilles, parce que c'est vrai que c'est un autre médium, et média même, qui fleurit un petit peu chez les auteurs. Et je voulais savoir pourquoi ce titre déjà, et qu'est-ce que tu partages dedans.
Alors le titre, bah écoute, j'étais partie dans l'univers des feuilles, des plantes, de la nature, donc je me suis dit, allez, partons là-dessus, c'est sympa, j'aime bien, c'est joli. Ce que je partage dedans, c'est beaucoup de choses en fait. C'est un peu les coulisses, mes actualités, si actualité il y a, des réflexions sur l'écriture, la créativité. Elle est un peu en pause actuellement, parce que j'ai pas pris le temps de l'alimenter tout simplement. Et en plus, que j'ai vu qu'il y avait un truc avec la plateforme qui me permet de l'envoyer où il faut avoir un nom de domaine ou je sais pas quoi. J'ai vu le mail et j'ai fermé le mail. Je me suis dit, oh non, ça a l'air compliqué.
T'es sur MailerLite ?
Oui.
Ouais, et c'est que t'as pas de site internet pour l'instant ou si ?
Non, c'est ça. Non, ouais. Non, j'en ai pas.
Ça va coincer pour l'instant, mais on en reparlera en off si tu veux. Encore les difficultés des écrivains.
Et oui, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, est-ce que je me lance sur un site ? On ne sait pas. Bon, en tout cas, donc voilà, là, pour l'instant, elle est en pause. Mais en tout cas, elle est née de l'idée que je ne voulais pas dépendre des réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a peut-être... Ah, je ne sais plus quand c'était. Plus d'un an, c'est sûr. Instagram a fait une mise à jour qui avait paniqué tout le monde parce qu'en fait, c'était plus que des formats type Reel. Et tu voyais plus la légende en fait, et donc on disait qu'ils allaient plus pousser que les vidéos, et donc tous les écrivains et écrivaines étaient en panique parce qu'on se disait mais non, nos contenus vont plonger et tout. Et donc moi en fait c'est un peu en réaction à cette panique que j'ai aussi ressentie, je me suis dit mais attends, c'est pas normal de dépendre à ce point là d'un seul canal, s'ils changent leur façon de faire, ça va plus aller avec ton contenu en fait, et plus personne va voir ton contenu. Au final, ils auraient trop pédalé parce que tout le monde a tellement râlé qu'ils ont pas... ils sont revenus sur la mise à jour. Donc, ça, c'est bien fini. Mais je me suis dit, bon, écoute, tu ne peux pas dépendre que d'un seul truc. Si jamais Instagram ferme, bon, bah, au moins, tu auras le mail de 30 personnes qui seront vraiment intéressées par ton contenu. Et à partir de là, tu pourras rebâtir quelque chose, quoi. Donc, c'est l'idée de départ de la newsletter.
Ok, bah, je rebondis sur ça parce qu'effectivement, je me rappelais de cette mise à jour. Bon, forcément, les reels sont toujours poussés parce qu'ils essayent de contrebalancer avec TikTok. Mmh. Je me souviens, bah, justement, je pense que c'est peut-être un petit peu à la même époque, mais il y a un peu plus de 2 ans, donc courant 2021-2022, il y avait eu un gros bug vu que Instagram, Facebook et WhatsApp même font partie du même groupe, le groupe Meta.
Ouais.
Pendant plus d'une journée ou à peu près une journée, tout était down. Et je me rappelle que j'habitais aux États-Unis et j'étais en panique parce que j'avais dû envoyer des emails à ma famille parce qu'on n'avait plus aucun moyen pour communiquer vu que j'étais à l'étranger. Et beaucoup ont réalisé, moi y compris, que ah, bah, si un jour il y a, comme ils font tous partie du même groupe, ou presque, si un réseau social qui disparaît, je me retrouve sans rien. Donc la newsletter, ça permet d'être un minimum indépendant et de garder un lien, même si forcément tu touches moins de gens parce que t'as pas le même... J'imagine qu'il y a des gens qui ont le même nombre d'abonnés, mais moi j'ai 10 fois moins d'abonnés sur ma newsletter. Mais comme tu dis, voilà, c'est des gens qui
oui,
sont.
Oui, pareil.
Mais c'est vraiment le. Je vais pas dire ultra fan parce que voilà, je suis pas, Rick Riordan, tu vois, l'auteur de Percy Jackson. Donc c'est pas comme si j'avais des milliers d'abonnés, mais te dire bon, même si c'est 100 personnes. C'est 100 personnes qui sont ultra contents, ou j'espère, de recevoir mes emails parce que bah, ils sont toujours abonnés, quoi. Et donc, t'arrives directement sur leur boîte mail et pas entre 36 pubs, 3 vidéos et 4 gifs.
Bah oui, bien sûr, exactement. Puis tu as tout le côté que tu peux te faire bannir aussi des réseaux sociaux. Enfin, Instagram, on l'a vu, surtout pour les créatrices de contenu qui créent du contenu politique, engagé. Ou par exemple, je sais pas moi, on voit ton téton sur la photo, si t'es une femme, ça y est, tu dégages, quoi. Ou tu te prends un raid de gens qui n'ont pas aimé. Bon, moi, je suis vraiment une mini envergure, donc a priori, il n'y a pas trop de risque que ça arrive. Mais c'est vrai que t'es tellement pas à l'abri avec les plateformes. C'est vraiment eux qui contrôlent ton moyen d'expression, en fait. Donc, et ça, c'est pour ça que je trouve que c'est bien de se ménager des portes de sortie, tu vois, pour pas. Parce que pour la mise à jour dont je te parlais, là, c'était vraiment, je me souviens, la panique à bord, quoi. Tout le monde était en train de se dire, mais que va devenir mon compte? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je reste sur Instagram? Et c'est vrai que se mettre dans ces états-là pour une mise à jour d'une application, moi, j'étais la première à être inquiète, hein. Mais c'est vrai que tu dis, là, c'est le moment de prendre du recul, tu vois. Genre, est-ce que c'est normal que ça me mette dans cet état-là? Non.
Tout à fait, ouais. Oui, et puis j'ose imaginer que... Enfin, voilà, on est tellement... J'imagine que c'est tous les artistes, mais comme t'es attaché, il y a une part de toi dans tes projets, il y a tes projets en toi dans tous les cas, c'est dur de prendre du recul, de dire bah oui je crée, mais je crée aussi pour qu'on me lise, sinon bah, je partagerai pas et j'écrirai juste sur Word et voilà. Et de se dire que, alors certes, si t'es en maison d'édition, il y a un côté communication de leur côté, mais s'il n'y a plus de réseaux sociaux, bah c'est le même problème. Donc on te coupe un peu l'herbe sous le pied, tu vois, tu t'es créé une communauté et puis d'un coup tu peux plus échanger avec ces gens et t'as juste l'impression de parler à un mur. Je pense que c'est ça qui fait peur aux gens, et moi la première, et puis d'autant plus les personnes dont c'est le métier à temps plein, que c'est leur gagne-pain également et pas juste
un
métier secondaire. Ouais. Donc c'est la grande détresse, je pense. Le grand problème, mais ok, très bien. Bah, je voulais revenir sur tes prochains projets, parce que tu as parlé lors de cet épisode de tes tomes 2 et 3. Donc voilà, est-ce qu'il y a une sortie prochaine, enfin qui approche, ou est-ce que tu vas aussi écrire dans un genre totalement différent? Qu'est-ce que tu aimerais faire?
Alors là, la priorité, c'est vraiment de terminer ma trilogie, parce que moi, comme je suis une autrice assez lente, donc je ne peux pas me disperser et commencer à mener d'autres projets et tout ça, parce que sinon, je vais jamais finir mon tome 3. Et on aimerait les sortir de façon quand même assez rapprochée pour ne pas perdre les gens. Donc là, voilà, la priorité, c'est vraiment tome 3. Correction édito du tome 2 également, parce que donc, si jamais je vous ai un peu appâté avec mon petit pitch de la deuxième quête, on a donc le tome 1 qui est sorti en papier, le tome 1 qui va également sortir en version numérique très bientôt. Au moment où va sortir ce podcast, enfin, où va sortir l'épisode, je pense que soit quelques jours après, enfin, en tout cas, vraiment pas très longtemps après, quoi, on aura aussi l'e-book. Le tome 2 sort au mois de juin, et voilà. Et le tome 3, pas si longtemps que ça après, mais je communiquerai dessus quand j'aurai plus de certitude.
Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, parfait. C'est presque le moment de rendre l'antenne. Donc, s'il y a une question que je ne t'ai pas posée, si tu as un message que tu veux passer, si tu veux rajouter quoi que ce soit, le micro est à toi.
Bah écoute, c'est gentil, mais je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu sur le podcast. C'était super sympa de pouvoir avoir une discussion aussi approfondie. Je ne sais pas combien de temps fera l'épisode, mais là, on est à bien un peu plus d'une heure de blabla déjà, donc c'était super agréable de pouvoir parler de ça. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si jamais.
Surtout, c'est important. Et la newsletter, c'est important aussi.
Et la newsletter, une fois que j'aurai réussi à me dépatouiller.
Avec mes rights, bon, ça va le faire. Bah, merci beaucoup en tout cas, Anne-Maëlle, Laure des Feuilles, pour ton intervention aujourd'hui. Encore un grand merci à Anne-Maëlle pour cet épisode, c'était super cool. Je sais pas vous, mais moi j'en suis ressortie 100% détendue. J'adore sa voix, très posée. Du coup, voilà, ça me donne envie de découvrir la cozy fantasy, de relire Le Hobbit. Je suis une grosse menteuse d'ailleurs parce que je l'ai jamais lu. En tout cas, de regarder Le Hobbit et peut-être même Le Seigneur des Anneaux. Bref, de partir vers des contrées lointaines. Dites-moi si ça vous a inspiré, que ce soit du côté lecture ou écriture, je serais ravie d'en débattre avec vous. Et je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. On se retrouve très vite pour des épisodes solo et en duo. Et surtout pour la nouvelle interview le mois prochain. Prenez soin de vous et à très vite. Salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite!